Bienvenue à l'écoute de la deuxième synthèse du séminaire de la communauté mixte de recherche DIMA. DIMA est une communauté mixte de recherche dédiée au lien entre déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Le séminaire s'est tenu le vendredi 14 avril 2023. Il a concerné les actions qui sont à l'origine de DIMA. En décembre 2022, lors du premier séminaire, nous avions parlé du journal de Jenny, un outil créé par une équipe en Écosse pour parler de la maladie d'Alzheimer avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans le séminaire du 14 avril, celui que vous écoutez, nous avons parlé de l'actualité de notre communauté DIMA. Nous avons parlé d'un autre outil, une vidéo réalisée par la FIRA. La vidéo s'appelle « Alice et Mehdi ». Ensuite, nous avons eu deux retours d'expérience. Stéphanie Lotio, psychologue, nous a expliqué comment elle a utilisé le journal de Jenny et la vidéo d'Alice et Mehdi. Stéphanie a accompagné une dame avec trisomie 21 dont le père était atteint de la maladie d'Alzheimer. Le deuxième retour d'expérience était celui de Madame Guidé, cadre de santé. Elle nous a expliqué comment l'utilisation du journal de Jenny a permis, dans deux EHPAD, un EHPAD est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comment Madame Guidé, donc, a repensé l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Notre premier point est l'actualité de la communauté mixte de recherche DIMA. Le site internet a été lancé. On peut le trouver en tapant le lien suivant dans un navigateur sur un ordinateur pour accéder à internet. Voici les lettres qui composent le lien. https://www.social-project.fr, ce qui donne social-project.fr/DIMA, DIMA. Le lien est donc www.social-project.fr/DIMA. Nous avons aussi commencé à travailler sur un podcast. Un podcast est une sorte de reportage enregistré que l'on peut écouter, où il n'y a que du son. Le but de ce podcast, qui est réalisé par une journaliste, Blandine Lacour, et un réalisateur, Maxime Huyghe, est de toucher le grand public. Le podcast touchera notamment les familles, car le site, lui, attire plutôt des professionnels. Les premiers épisodes du podcast sont réalisés en juin 2023. Une deuxième série d'épisodes sera faite en 2024. Dans la deuxième série d'épisodes, nous intégrerons et nous partagerons tout ce que la communauté DIMA aura appris depuis. Ensuite, le groupe de travail sur les besoins et les expériences des familles nous a dit qu'il cherchait des familles qui souhaitaient partager leur expérience. L'objectif de ce groupe de travail est de partager des histoires de vie, de les analyser ensemble pour en tirer des leçons, des enseignements. Attention, ce groupe de travail n'est pas un groupe thérapeutique, ce n'est pas non plus un groupe de parole. Il y a 3 ou 4 rencontres par an. Les rencontres peuvent aussi se passer en visioconférence, pour les personnes qui n'habiteraient pas dans la région des Hauts-de-France. Il n'est pas nécessaire que la personne concernée ait reçu un diagnostic médical de maladie d'Alzheimer. En effet, ce diagnostic peut être très difficile à obtenir. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent prendre contact avec Pascaline Delay. Pascaline est le pilote du groupe de travail. Notre deuxième point lors du séminaire a été la présentation de la vidéo Alice et Mehdi par Muriel Delporte. Muriel est la coordinatrice scientifique de DIMA. La vidéo d'Alice et Mehdi peut être trouvée sur l'espace multimédia dédié au handicap et maladie d'Alzheimer de la FIRA. On va le trouver sur le site internet de la FIRA. Cette vidéo est un support d'information sur la maladie d'Alzheimer. Le support d'information, cette vidéo donc, a été adapté à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans la vidéo, on peut voir deux personnages, Mehdi, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, et Alice, sa compagne. Alice explique ce qu'est la maladie d'Alzheimer, comment on fait pour avoir un diagnostic, et comment on peut accompagner une personne qui a cette maladie. Sur l'espace multimédia de la FIRA, à côté de la vidéo, il y a aussi 15 fiches pratiques qui s'appellent « Les conseils d'Alice ». On trouve aussi d'autres documents sur le même sujet, des rapports de recherche, des fiches en facile à lire et à comprendre, en FALC. Le troisième point de notre séminaire a été le retour d'expérience, le partage de Stéphanie Lotio, psychologue. Stéphanie nous a expliqué, dans une petite vidéo, la manière dont elle a accompagné une dame, Julie, dont le père est atteint de la maladie d'Alzheimer. Julie est une femme de 35 ans. Elle présente une trisomie 21. Elle vit dans un foyer d'hébergement. Avec la vidéo d'Alice et Mehdi, et avec le journal de Jenny, Julie a pu mieux comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Elle a reconnu certains troubles qu'elle a observés chez son père, et elle a pu parler de ce qu'elle ressent. Elle a aussi pu dire qu'elle voulait aider son père, qu'elle voulait réfléchir à tout ce qu'elle pouvait faire avec lui et pour lui. Julie a commencé à tenir un cahier. Dans le cahier, elle a noté tout ce qui lui faisait penser que son père a la maladie d'Alzheimer. Les oublis de son père, les questions qu'il répète, etc. Ensuite, Julie a noté tout ce qu'elle pouvait faire avec lui. Par exemple, regarder des photos, regarder des magazines, faire des jeux de société, etc. À partir de ce moment, Julie a pris son cahier à chaque fois qu'elle allait voir son père le week-end. Elle a ajouté des photos dans le cahier, des images découpées dans des journaux. Elle a aussi eu l'idée de coller une image sur la porte de la salle de bain et de la chambre de son père, pour que son père se repère plus facilement. Julie a dit que le fait d'avoir des images l'avait bien aidée quand elle était arrivée pour la première fois dans son foyer. Donc, elle a voulu faire pareil pour aider son père. Quand Julie a parlé de la maladie d'Alzheimer avec Stéphanie, Stéphanie n'a pas voulu lui expliquer tous les signes possibles de la maladie d'Alzheimer. Stéphanie ne voulait pas inquiéter Julie avec des problèmes que son père n'aura peut-être pas. Chaque malade est différent. Stéphanie sait aussi que si elle a un souci, Julie peut lui en parler. Julie peut aussi en parler avec les éducateurs du foyer. C'est Julie qui a choisi ce qu'elle voulait mettre dans son cahier. C'est aussi Julie qui a choisi de faire tout cela seule, sans impliquer, sans demander l'aide d'autres membres de sa famille. Julie voulait le faire elle-même. Pendant le séminaire, nous avons discuté après avoir entendu ce que nous a raconté Stéphanie. Nous nous sommes dit que son retour d'expérience montre que les personnes en situation de handicap peuvent aussi être des aidants. Elles peuvent aussi être aidantes. Elles peuvent avoir des amis, des proches qui sont touchés par la maladie et vouloir leur venir en aide. Des outils comme le journal de Jenny et la vidéo d'Alice et Mehdi peuvent leur permettre de mieux comprendre la maladie, mais aussi de savoir comment venir en aide à des personnes malades. Quand une personne vit dans un foyer et qu'elle développe une maladie d'Alzheimer, cela peut aussi créer beaucoup d'émotions pour son entourage, sa famille, les professionnels, mais aussi pour les autres résidents du foyer. Il est important que les autres personnes qui vivent dans le foyer puissent comprendre ces difficultés. Il faut qu'elles sachent comment elles peuvent l'aider si elles le veulent. C'est plus facile quand on sait les choses, quand on comprend et qu'on sait ce qui va arriver. Il est aussi important que les professionnels reconnaissent que c'est difficile de vivre avec une personne malade d'Alzheimer et qu'ils réfléchissent, avec les autres habitants du foyer, à ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sentent qu'ils vont perdre patience. Les professionnels aussi ont droit au répit. C'est important d'être aidé quand on veut aider quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Les professionnels du foyer ont besoin d'être soutenus, eux aussi. Ils ont souvent besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils peuvent accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Même s'ils ne connaissent pas bien la maladie d'Alzheimer, les professionnels connaissent le handicap. Surtout, ils connaissent bien la personne qui est malade, car elle peut vivre dans le foyer depuis très longtemps parfois. Parfois aussi, la personne malade doit partir vivre dans un autre établissement, souvent dans un EHPAD. Souvenez-vous, les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Quand la personne part dans un autre établissement, il faut pouvoir l'accompagner. Il faut aussi que l'équipe du nouvel établissement ait des informations sur la personne, qu'elle sache ce que la personne sait faire, ce que la personne aime faire. Ces informations doivent être données par quelqu'un qui connaît bien la personne qui part dans l'établissement, une personne qui l'a accompagnée tous les jours dans le foyer qu'elle va quitter. La maladie d'Alzheimer ne peut pas être guérie. Elle ne peut pas disparaître. Des chercheurs aux États-Unis mettent en place des tests pour un médicament. Mais les résultats ne sont pas encore connus et le médicament n'est pas encore arrivé en France. Le quatrième point de notre séminaire a été un retour d'expérience, un partage par Laurence Guidé, qui est cadre de santé dans un EHPAD, un établissement pour les personnes âgées dépendantes. Madame Guidé nous explique comment le journal de Jenny a été utilisé dans les unités de vie Alzheimer de deux EHPAD. Une unité de vie Alzheimer est un lieu particulier dans l'EHPAD où on accompagne spécifiquement, tout spécialement, les personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer. Dans ces deux établissements, Madame Guidé nous explique que l'on a repensé l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les unités de vie Alzheimer accueillent des personnes atteintes de maladies qui évoluent, mais qui n'ont pas de handicap intellectuel. Des maladies que l'on dit neuro-évolutives. Le journal de Jenny a permis de se rendre compte de deux choses importantes. D'abord, la formation que l'on donne aux soignants qui travaillent dans les établissements pour personnes âgées est très médicale. Il y a beaucoup de choses sur la maladie qu'on leur apprend, mais rien sur la façon dont on peut accompagner les personnes au quotidien, tous les jours. Les personnes malades de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ensuite, les unités de vie Alzheimer ne sont pas adaptées aux personnes malades d'Alzheimer. Il n'y a pas assez de repères. Il faut réorganiser tout l'environnement. Il faut le changer. Les changements mis en place dans les unités de vie Alzheimer ont été les suivants. La signalétique. Les signes que l'on met, par exemple, dans les couloirs ou sur les murs. Il n'y en avait pas du tout. L'équipe a mis de petites affiches sur les murs pour indiquer le chemin pour aller à la salle de séjour, au jardin, etc. Parfois, les affiches ont la forme de flèches. Parfois, il y a des indications écrites et de petits dessins. On appelle cela des pictogrammes. Les affiches sont en couleur pour qu'on les voit bien sur les murs. La signalétique, les signes que l'on peut mettre sur les murs, a aussi été changée sur les portes des toilettes. Et des indications qui étaient écrites, comme « WC » ou « sanitaire », ont été remplacées. À la place des écritures, on a mis des images. Un autre changement a été de favoriser des repères dans le temps. Il y avait une horloge dans l'unité de vie Alzheimer. L'horloge donnait l'heure sous forme digitale, c'est-à-dire avec des chiffres. Et les résidents n'arrivaient pas à lire l'heure. L'horloge a donc été remplacée par une horloge avec des aiguilles. Un autre changement a été d'utiliser des couleurs contrastées. Les architectes, les gens qui dessinent et conçoivent des bâtiments, quand ils créent des établissements, veulent souvent que le matériel soit discret. Par exemple, les rampes d'appui sur les murs vont être blanches sur des murs blancs. Le problème, c'est que les résidents des unités de vie Alzheimer n'arrivent pas à voir les rampes blanc sur blanc et ils ne s'en servent pas. Il faut donc utiliser des couleurs différentes pour que les personnes se repèrent mieux. Les couleurs ont été adaptées dans différents endroits. Les barres pour s'appuyer, les interrupteurs pour allumer la lumière, l'encadrement des portes, les poteaux, lorsqu'il y en avait au milieu de certaines salles, ont été repeints. Un autre problème est que les sièges des toilettes sont souvent blancs sur des toilettes blanches. Et là aussi, les personnes n'arrivent plus à les voir et elles ont peur de s'asseoir. Les sièges ont donc été remplacés par des sièges de couleur. L'effet a été très rapide. Les personnes ont pu, dès les jours qui ont suivi, s'asseoir beaucoup plus facilement sur les toilettes. Le jardin, lui, était très peu fréquenté. Différents éléments, les poteaux, des pots pour les plantes, etc., ont été repeints pour rendre le jardin plus attractif, plus intéressant. Un bac surélevé, que l'on a mis plus haut, a été adapté aux besoins des personnes qui étaient en fauteuil. Un autre changement a été de diminuer les reflets. Les fenêtres, les baies vitrées, les miroirs peuvent mettre des personnes malades d'Alzheimer en difficulté. En effet, ces personnes voient leurs reflets mais ne se reconnaissent pas et elles croient que quelqu'un les regarde. Parfois, on a donc enlevé ou alors on a mis un voile sur les miroirs dans les salles de bain ou dans les ascenseurs. On a aussi organisé différemment les lieux. Certains lieux doivent être créés ou réorganisés. Par exemple, on a créé un coin détente pour qu'il soit plus agréable. Et on a changé les meubles dans la salle à manger pour qu'elle soit plus pratique. Les repas et les boissons ont été adaptés pour les personnes qui ont du mal à avaler. On parle de problèmes de déglutition. On a utilisé des épaississants, des choses qui vont rendre plus épais, moins liquide, n'importe quelle boisson, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide. On a permis aussi aux personnes de manger avec les mains, surtout pour les personnes qui n'arrivent pas à rester assises. Comme ça, elles peuvent manger en marchant, par exemple. Enfin, on a changé la tenue des professionnels. Il n'y a plus de blouse blanche. Les professionnels ont une tenue de travail qu'ils ont choisie et qui ressemble à une tenue de ville, à une tenue que l'on pourrait porter dans la rue. Comme ça, la relation avec les résidents, avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, est beaucoup plus facile. Ces adaptations ont eu un effet très positif pour les résidents, mais aussi pour les professionnels. Elles ont permis de mettre en place une vraie dynamique dans l'équipe, une meilleure manière de travailler ensemble. Après avoir écouté Laurence Guidé, nous avons discuté ensemble. Le journal de Jenny a été conçu, il a été créé, imaginé pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais on peut voir qu'il est également utile pour les personnes âgées et dans le secteur des professionnels qui s'occupent des personnes âgées. On appelle ça le secteur gérontologique. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de discussions entre les personnes qui travaillent dans le domaine du handicap et les personnes qui travaillent dans le domaine des personnes âgées. Or, ce que l'on fait pour certaines personnes très précises peut servir à d'autres. Par exemple, le journal de Jenny qui servait dans le domaine du handicap peut aussi servir dans le domaine des personnes âgées. De manière générale, raconter les expériences des personnes qui ont vécu avec la maladie d'Alzheimer ou qui ont un proche atteint par la maladie est très intéressant. Ça permet de savoir comment s'adapter, d'avoir des idées pour accompagner les personnes malades, dans la manière de construire, de concevoir, d'imaginer les EHPAD, les établissements pour personnes âgées, on a hérité, on a reçu une culture très médicale. On pense les choses de manière très médicale, sans forcément, à l'époque, bien connaître les maladies neuro-évolutives, comme la maladie d'Alzheimer. Par exemple, quand on sait aujourd'hui que les personnes ont besoin de marcher, On va fabriquer des endroits où elles peuvent marcher, mais où il ne se passe rien. Il serait plus intéressant qu'en marchant, ces personnes puissent traverser par exemple une salle d'activité, qu'elles puissent voir des choses, rencontrer des gens. Aujourd'hui, sur les nouveaux projets, il y a des améliorations au niveau de l'architecture, au niveau des bâtiments. Mais parfois, il y a des difficultés du côté de l'engagement des professionnels. L'engagement des professionnels, c'est la façon dont les professionnels sont prêts ou pas à faire plus de choses ou à changer leur manière de faire. Il faudrait que les équipes de direction redonnent du sens, permettent aux professionnels de discuter entre eux pour mieux comprendre ce que c'est que leur accompagnement pour les maladies d'Alzheimer. Il ne faut pas simplement être dans la logique gestionnaire. La logique gestionnaire, c'est par exemple s'occuper uniquement des budgets, des financements et de la manière dont les gens travaillent d'un jour sur l'autre. C'est surtout sur le terrain que l'accompagnement se construit, là où les gens travaillent. Toutes les idées que l'on trouve, qu'on va chercher, qu'on invente, mais aussi parfois que l'on réinvente, tout cela, ça se passe sur le terrain, là où sont les gens. Souvent, les adaptations vont fonctionner un certain temps, puis, à nouveau, il faudra les changer. Il faut donc que les équipes, les proches et les personnes qui vivent auprès des personnes malades d'Alzheimer soient tout le temps en train d'inventer, qu'ils soient créatifs, qu'ils s'adaptent en permanence. Voici la fin de la synthèse du deuxième séminaire de la communauté mixte de recherche DIMA, une communauté mixte de recherche dédiée au lien entre déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer.